Comme vous le savez, il y a un mois, décédé notre cher ancien pasteur Christophe Short. Et lors de la cérémonie de souvenir à Ponto, plusieurs personnes se sont succédées au micro pour raconter un moment de sa vie. C'est ainsi qu'on a évoqué l'ONG appelée Opération Mobilisation, que nous appelons OM pour simplifier. Il y en a qui connaissent OM ici ? Pas beaucoup, hein ? Si, quand même quelques-uns. Cela a réveillé en moi beaucoup de souvenirs, car je suis indirectement le fruit de leur travail, puisque la personne qui m'a amenée au Seigneur a été évangélisée par eux. Mes quatre premiers pasteurs, Chris Maul, Chris Lorimer, Chris Short et Gordon Margerie, étaient des équipiers d'OM, avant de devenir des pasteurs implanteurs d'église. Tous, au sein d'OM, étaient influencés par la vie de foi de Georges Müller. Y en a qui ont entendu parler de Georges Müller ? Oui, un peu plus. Pour les autres, il va falloir faire du rattrapage, là. Ce pasteur a dirigé un orphelinat pendant de nombreuses années à Bristol, en Angleterre, au XIXe siècle. Il a accueilli, nourri, scolarisé plus de 10 000 orphelins dans son orphelinat de Bristol. Il a fondé 117 écoles qui donnèrent la meilleure formation scolaire et spirituelle à environ 120 000 enfants. Attendez. Je vais le remonter un petit peu. Voilà. Ce Georges Müller avait quelques principes. Confier à Dieu seul ses besoins et prier jusqu'à l'exhaustion. Ne dépenser l'argent reçu que pour l'affectation qui a été précisée. Ne faire aucune dette. S'appuyer sur les promesses de Dieu comme celle qui dit que Dieu est le père des orphelins. En vivant ainsi par la foi, puisqu'il n'avait pas de salaire, il n'avait que ce qui venait suite à ses prières, il a vu de nombreux miracles. Par exemple, voici ce qu'il est dit. Donc là, je cite une page internet parce que j'ai cherché mon bouquin et je ne l'ai pas retrouvé. J'ai dû le prêter. Avant la fin de cette même année, il se retrouva à nouveau sans un sou, le jour où il devait payer le loyer. Il demanda à Dieu de lui envoyer de l'argent et il le reçut. À cette occasion, Georges Müller formula pour lui-même la règle suivante, dont il ne s'écarta jamais. Nous ne devrons rien à personne, car nous avons vu que ce n'est pas biblique. Et ainsi, nous n'aurons pas de dette à payer. Nous achèterons uniquement quand nous aurons l'argent comptant. Ainsi, nous saurons toujours exactement combien nous possédons réellement et donc ce que nous pouvons nous permettre de faire. De cette manière, Dieu entraîna peu à peu le nouveau prédicateur à avoir confiance en ses promesses. Celui-ci était si persuadé de la fidélité des promesses de la Bible qu'il ne s'écarta jamais, au cours de toutes les longues années de son œuvre à l'orphelinat, de la résolution de ne rien demander au prochain et de ne rien lui devoir. Et vous trouverez beaucoup d'histoires de Georges Müller, donc dans le livre là, que vous voyez à l'écran, et aussi sur Internet, il y a plusieurs pages qui ont été alimentées et qui montrent comment le Seigneur a pourvu aux prières de Georges Müller. Je reviens à OM. OM avait l'habitude d'organiser des campagnes avec de jeunes équipiers sur ses principes. Et revenons maintenant à Chris Short, qui est resté assez longtemps à OM. Il a été directeur des campagnes d'été après avoir été équipier. Il raconte ceci dans son livre biographique « Passer le relais ». Nous n'avions pas de tente et chaque matin nous demandions au Seigneur de pourvoir à un endroit pour dormir. Les repas se limitaient souvent à des sandwichs. Dans une de nos réunions de prière matinale, après avoir demandé à Dieu un abri pour la nuit, Un de mes coéquipiers a ajouté qu'il aimerait que le Seigneur pourvoie des œufs aussi. Un autre a surenchéri en demandant du lait. Je n'avais jamais vécu une telle chose. Et donc j'ai dit un timide « Amen ». Pendant la journée, le chef d'équipe nous a annoncé qu'un paysan allait nous laisser dormir dans sa grange. Merci Seigneur. Vous imaginez mon émerveillement quand le soir venu, nous avons pénétré dans la fameuse grange et nous avons découvert sur le sol des œufs et du lait. J'étais en train de vivre le miraculeux de façon personnelle. Le but de ces campagnes était donc de permettre aux jeunes chrétiens d'expérimenter par eux-mêmes les promesses de Dieu. Et tous ont vu de leurs yeux que Dieu répond. D'autres témoignages ont été donnés encore dans son livre. OM fonctionne toujours comme ça. Christian Boget, qui est là, m'a prêté un livre avant les vacances de Noël, qui est le témoignage. Alors moi je l'appelle Martin Delange, mais il faut prononcer Martin Delange. Cet homme vient d'Afrique du Sud et il avait eu la conviction de s'engager à travailler pour le Seigneur en Turquie. Il cherchait une mission qui travaillait en Turquie. Il est mis en contact avec OM. La mission lui plaît, il accepte. La première surprise vient quand il commence à parler d'argent. Il devra payer lui-même ses billets d'avion. Ah. Bon. Et puis après, on ne lui versera aucun salaire. Ah. On lui déconseille également de travailler à mi-temps, car il n'aurait pas le temps à côté de son ministère. Vos ressources pécuniaires devront venir de Dieu, lui dit-on. On lui signifie ainsi qu'il devra chercher son soutien et prier pour couvrir ses besoins. Alors c'est ce qu'il va faire. L'histoire que je préfère dans son livre, c'est comment Dieu a pourvu à un minibus à un prix qu'il ne pouvait qu'accepter. Il est allé retirer l'argent reçu à la banque, après avoir prié pour un certain bus, et s'est rendu chez le concessionnaire pour récupérer son prix de consolation. Son prix de consolation parce qu'il avait vu que l'argent reçu ne correspondait pas du tout au prix du minibus qu'il avait convoité. J'étais assez excitée, mais aussi un petit peu déçue lorsque j'ai expliqué au vendeur que j'avais décidé d'acheter un minibus de second choix. « Vous en êtes vraiment sûr ?» m'a-t-il demandé. « Le minibus Hyundai est vraiment une meilleure affaire. C'est vraiment le minibus qu'il vous faut pour... Ben, vous savez ce que vous voulez en faire. » Assez curieusement, il préférait ne pas trop s'étendre à propos de mes projets de transport de Bible et de chrétiens à travers le pays. « Oui, je sais, ai-je soupiré, mais je ne peux vraiment pas me le permettre. »« Ah bon ? Vraiment ? Il se pourrait que j'ai la bonne affaire pour vous. » Un homme vient de venir me voir pour me dire qu'il voulait vendre son minibus Hyundai. Il traverse une période difficile financièrement. Il est pressé et dans sa précipitation, il voudrait le vendre rapidement. Mon cœur s'est mis à battre plus fort dans ma tête. Je ne savais plus quoi penser. Devais-je espérer que mon rêve devienne réalité ou devais-je me préparer à être à nouveau déçu? Je saute un petit peu. Quand le propriétaire du véhicule est arrivé au volant de son minibus, tout étincelant, j'ai fait tout mon possible pour ne pas montrer ma joie et mon excitation, ni au conducteur, ni au commerçant. C'était dur. Il m'a montré tout son minibus, toutes les coutures, etc. En descendant, je lui ai dit sans hésiter ce que j'avais à offrir en espèces et que c'était la seule offre que je pouvais faire. Il a réfléchi quelques instants, il a regardé avec une pointe de tristesse ce qui avait été l'amour de sa vie, et puis il a dit « Top là, marché conclu ». Après des années, cet homme est revenu de Turquie et il est toujours avec OM. Et il paraît qu'il habite à Ozoir. C'est pour ça que je vous parle de lui. Et quant à OM France, son siège se trouve à Pontecombo. Voilà, des voisins. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je souhaite vous donner des modèles qui sont concrets, qui sont près de nous, d'hommes et de femmes qui ont pris au sérieux le texte que nous allons lire maintenant. Et pour les livres, vous pourrez demander au comptoir de librairie comment vous les procurer. Le texte que nous allons lire maintenant fait partie de ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Ce sermon est rapporté longuement dans Matthieu 5, 6, 7 et plus courtement dans Luc 6. C'est plus qu'un sermon, mais un véritable séminaire d'enseignement qui a dû durer plusieurs heures. Et cela s'est passé sur une des collines qui surplombe le lac de Galilée, côté ouest. Jésus a déjà parlé des béatitudes, de la loi, du témoignage personnel, des relations entre les hommes et les femmes, des relations sociales, de l'hypocrisie religieuse et de la prière. À cette occasion, il a donné le Notre Père comme modèle. Et puis, dans la partie qui nous intéresse ce matin, il aborde la question de l'argent et des inquiétudes concernant notre pouvoir d'achat. Donc, nous allons lire le texte d'aujourd'hui. Je vais un petit peu. Matthieu 6, 19 à 34. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent, mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, que votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand Jésus enseigne, ce n'est pas difficile à comprendre. Nul besoin d'avoir bac plus 10. À bac moins 10, on comprend déjà tout. Et peut-être mieux encore. La difficulté n'est pas de comprendre, mais de faire. mais d'appliquer en évitant les mauvaises interprétations. Alors un indice de compréhension vient de ce verset. Alors j'ai écrit que nous avons chanté tout à l'heure, mais on ne l'a pas chanté. Donc on a récité de mémoire. Cherchez d'abord. Vous connaissez ce chant, un grand classique. Il est question de nos priorités dans nos choix. D'abord, premièrement, c'est le mot important. Et c'est à la lumière de cette recommandation que nous allons revoir tout le texte. Je vous propose ce petit plan qui montre que Jésus commence par dire ce qu'il ne faut pas faire, pour terminer par ce qu'il faut faire. On a donc une interdiction, une clé, un avertissement, un piège, une recommandation et une promesse. Interdiction. Ne vous amassez pas des richesses. Amassez plutôt des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Ne dites pas, je vais gagner plein d'argent et avec cet argent, je pourrai faire des choses pour le Seigneur. Quelle folie! Mais vous serez vieux et malade quand vous aurez tout cet argent. Et il filera dans les soins de santé. Et jamais pour le Seigneur. Ne dites pas non plus, je vais jouer au loto et avec les gains, je pourrai faire du bien autour de moi. Tant que vous dites, je vais gagner de l'argent d'abord, vous êtes sur une fausse piste. La seule chose que cela révèle, c'est que vous aimez l'argent. Les personnes dont je vous parlais au début, eux, parlent de la banque du ciel. Dieu possède tout l'or et l'argent du monde et il le met à disposition de ceux qui font sa volonté. Il monte le projet d'abord, comme l'orphelinat, et l'argent vient derrière. La priorité est donc de chercher d'abord la volonté de Dieu. Dans « amasser des richesses », il y a l'idée d'avoir plus que le fonds de roulement nécessaire pour vivre. C'est de l'argent qui ne circule pas, mais qui dort quelque part. Jésus, là, ne vise pas votre paye de fin de mois. Il ne s'agit pas de gestion courante, mais du surplus, de l'épargne, de l'amas, du stockage. Le verset suivant a l'air de tomber comme un cheveu sur la soupe. Mais il y a un rapport, vous allez voir. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu ? On est bien d'accord qu'il s'agit ici d'une image. Les yeux nous servent à décrypter le monde matériel qui nous entoure, de manière à nous diriger facilement. C'est près, c'est loin, c'est dangereux, c'est sécurisé. Voilà. Comment décrypter spirituellement le monde immatériel qui nous entoure ? Il nous faut une grille d'interprétation. Et cette grille d'interprétation, c'est la parole de Dieu qui nous la donne. Plus on la lit et on l'étudie, et plus on voit clair dans ce qui nous entoure. Où sont les lieux sécurisés et où sont les pièges ? Qui sont nos amis et qui ne sont pas nos amis ? Quelles sont les pratiques qui nous mettent en danger spirituellement ? Comme la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne du discernement. Jésus parle de discernement, et autour de Jésus, tout le monde comprend. C'est une image classique dans le monde juif de l'époque. Ce monde juif comprend même une allusion qui a failli m'échapper à moi. Par exemple, ce verset très significatif de la loi. « Tu n'accepteras pas de peau de vin, car les présents aveuglent, même les hommes lucides et compromettent la cause des justes. » Vous voyez, on retrouve les mêmes termes. Ils aveuglent. En Deutéronome, la même chose. Vous ne fausserez pas le cours de la justice, vous ne vous laisserez pas corrompre par des cadeaux, car ceux-ci aveuglent même les sages et compromettent la cause des innocents. Deutéronome 16. Ce qui aveugle, c'est aussi la désobéissance et le péché. Deutéronome 28, verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, verset 27, l'Éternel, 28, vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité. » Tous ces versets-là, les juifs de l'époque les avaient, eux. en mémoire complètement. Dans tous ces versets, on voit que l'argent, les petits cadeaux, la corruption rendent aveugles, c'est-à-dire égarés sans discernement. Garder ses yeux en bon état, c'est donc aussi refuser la corruption. Vous voyez donc que notre verset a un rapport avec l'argent. Celui qui vous donne, qu'attend-il en retour ? Question. L'avertissement suivant, l'argent est une idole. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon, Dieu et l'argent. Dans le grec, le mot rendu par argent avec un grand A, c'est Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Si Jésus choisit ce mot, c'est pour appuyer l'idée que la recherche excessive de l'argent rend idolâtre. Il a servi, Mammon devient le maître. Les situations sont nombreuses. Je prends un exemple, les joueurs de casino, de loto, de paris, de jeux d'argent. Quand ils gagnent, ils sont encouragés et ils rejouent. Quand ils perdent, ils espèrent se refaire et ils jouent encore plus. C'est une véritable addiction qui rend leur famille pauvre et malheureuse. Un autre exemple, ceux qui jouent en bourse, ou même les traders professionnels, cela va tellement vite quand ça chute qu'il faut surveiller ses placements comme le lait sur le feu. Cela peut conduire à la folie et même au suicide. Alors que celui qui se confie en Dieu sait que les problèmes d'argent trouveront une solution avec Dieu. Il peut dormir tranquille. Et comme le dit le proverbe, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Le piège à éviter maintenant. L'inquiétude. Alors le texte est long, je ne vais pas tout vous dire. Mais c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, etc. Verset 27. Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas. Car, verset 32, votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Il sait. Alors avant, on a vu des cas concernant l'argent en trop. Ici, on parle des besoins courants. L'argent nécessaire pour manger, boire, se vêtir, se loger, ce sont des besoins légitimes. On n'a pas besoin de se justifier de vouloir manger quand on a faim ou soif. Dieu le sait bien puisqu'il nous a fait comme ça. Donc ce qui est pointé, c'est le piège de l'inquiétude. Et l'inquiétude révèle un manque de foi. C'est comme les Hébreux dans le désert qui se plaignaient. L'Éternel nous a emmenés dans le désert pour nous faire périr. Vous vous rappelez ? Et pourtant, l'Éternel a donné l'eau et la manne et l'écaille. Si nous sommes inquiets, demandons plutôt pardon pour notre manque de foi. Dieu nous met parfois à l'épreuve pour nous apprendre à lui faire confiance. Mais l'épreuve ne dure qu'un temps, car Dieu répond comme nous avons entendu dans les histoires au début. L'inverse de l'inquiétude devrait être la gratitude. Peut-être trouvez-vous que vous êtes mal payé. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà, un toit, des repas, une allocation logement ou chômage, une pension, un petit salaire, une famille solidaire, et remerciez le Seigneur pour cela. Apprenez à vivre avec peu. Il faut mettre des priorités. C'est la recommandation. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc Dieu ne vous demande pas d'aller vivre sans argent comme un SDF. Ce que Jésus dit, c'est de le mettre en premier, d'en faire une préoccupation première, de le chercher d'abord. C'est une question de priorité. Donc la plupart d'entre nous, nous voulons avoir un bon métier, fonder une famille, avoir une maison. Si nous mettons ces objectifs en premier, nous finirons par avoir les uns et les autres, peut-être. Mais si nous mettons le royaume de Dieu en premier et si nous cherchons la volonté de Dieu pour notre vie, alors il est plus que vraisemblable que l'Éternel nous dirigera peut-être vers un métier différent ou vers un conjoint différent qui lui aussi mettra Dieu en premier dans sa vie et dans un lieu de vie différent. Il est vraiment important de mettre les choses dans l'ordre. Ne pas mettre la volonté de Dieu en premier, c'est passer à côté de l'essentiel, c'est se priver de bénédiction. Et il y a une promesse, hein, comme l'a dit Jackson tout à l'heure. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Et le lendemain se souciera de lui-même aussi. Puisque Dieu sait que nous avons besoin de toutes ces choses, il pourvoira. Nombre d'histoires édifiantes nous montrent qu'il agit ainsi avec ceux qu'il aime et reçoivent avec gratitude ce qui vient de sa main. Si George Müller avait attendu d'avoir l'argent pour fonder son orphelinat, il ne l'aurait jamais fait. Mais il s'est appuyé sur la promesse que Dieu était le père des orphelins. La plupart des églises que nous avons ici en région parisienne ont été fondées ainsi, comme la nôtre. Ceux qui les ont fondées avaient une certitude que c'était la volonté de Dieu. Ils ont fait le premier pas, ont commencé à chercher des disciples, puis à chercher l'argent, à faire appel autour d'eux, à faire connaître leurs besoins, et le Seigneur a pourvu d'une manière ou d'une autre, comme les bâtiments que nous avons là. La foi des premiers a alimenté celle des suivants. Nous avons aussi l'exemple de Salomon. Il a demandé d'abord la sagesse, et Dieu lui a accordé la sagesse, et en plus la richesse. Et à propos de sagesse, je voudrais vous lire un autre extrait du livre de Chris Short. Une autre expérience m'a profondément marquée. À cause des témoignages de Brash Bonsall, George Müller, George Verwer, et suite à ma petite expérience avec OM, j'ai fortement ressenti le désir de marcher moi aussi par la foi et de voir le Dieu Tout-Puissant répondre à mes besoins personnels. Le Seigneur avait déjà pourvu à mes besoins financiers par une bourse de l'État. Mais j'ai décidé de vider mon compte en banque et sans le dire à qui que ce soit, de me mettre à genoux et demander au Seigneur de répondre à mes prières pour mes frais de scolarité et pour mes besoins quotidiens. Je me voyais déjà donner un témoignage à tous les étudiants à la fin du trimestre au sujet de la miraculeuse provision divine. Seulement, mes prières, certes ardentes, n'ont pas été exaucées. Chaque jour, j'ouvrais mon courrier fébrilement, mais pas de chèque, pas de billet, rien. Le ciel restait silencieux. Très confus, je m'en suis ouvert à Stanley Jebb, un professeur en qui j'avais particulièrement confiance. Il m'a écouté attentivement. Puis, il a cité le verset. « Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Ensuite, il m'a dit très gentiment, « Ce n'est pas à toi de dire au Seigneur ce qu'il doit faire. » J'ai dû emprunter de l'argent pour combler le trou financier. Très humiliant. Je commençais à avoir quelques doutes quant à la provision de Dieu pour moi personnellement. Les chapitres suivants montreront pourtant qu'au moment choisi par Dieu lui-même, et non pas au mien, il est intervenu miraculeusement et fidèlement. Je remercie Christ pour son humilité et sa sincérité dans ce passage. C'est une leçon importante. Nous permettre d'avoir une bourse ou de gagner sa vie avec son travail fait partie de la réponse de Dieu qui pourvoit. Et il nous faut distinguer ici deux situations. Le cas général, c'est donc de demander à Dieu de nous aider à gagner nous-mêmes notre pain en nous fournissant un employeur et un travail. Nous suivons le Seigneur jour après jour en lui confiant nos besoins et avec ce qu'il nous donne généreusement, nous redonnons une partie au Seigneur, mais aussi aux missionnaires. L'autre cas est celui de ceux qui se sont mis à plein temps pour le Seigneur. Il faut pour cela qu'ils aient répondu à un appel particulier évident, sans forcer la main de Dieu pour cela. Alors, puisqu'ils vont travailler pour lui, il est juste qu'ils doivent attendre de lui leur salaire, c'est lui le patron. Ce salaire va passer par la banque du ciel, c'est-à-dire par les dons de ceux qui sont dans le cas général, mais aussi par des moyens connus de Dieu seul, d'où la nécessité de prier, vous voyez ? Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre. Il pêchait et vendait sa pêche pour vivre. Il a vécu une pêche miraculeuse qui lui a ramené assez d'argent pour pouvoir suivre Jésus quelques semaines. Quand il suivait Jésus, il avait un petit peu d'argent de poche, mais il a vu comment Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, des personnes venues sans leur pique-nique. Après la Pentecôte, il a eu un ministère plein temps, mais soutenu par la communauté des croyants qui avaient tout mis en commun. Pierre a vécu les deux situations avec autant de foi dans la première que dans la seconde. Récapitulons maintenant ce que nous avons vu. Dieu d'abord. Chercher d'abord ou chercher premièrement le royaume de Dieu ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler pour chercher de l'argent. Si Dieu avait voulu qu'on vive sans travailler, il n'aurait pas placé Adam dans un jardin, mais dans une cantine. Oui, il est normal de prendre ses responsabilités pour se nourrir soi-même et nourrir sa famille, et de prévoir pour ses vieux jours. Mais est-ce que j'ai cherché d'abord le royaume de Dieu ? Et toi ? Quel est le plan de Dieu ? Ce qui doit être premier, c'est la recherche de la volonté de Dieu en permanence. Mon projet est-il dans le plan de Dieu ? Mon projet de mariage, mon projet de travail, mon projet d'études, mon projet d'achat ? Si oui, il pourvoira. Sinon, si je lutte pour le faire avancer coûte que coûte, je sortirai du plan et de la bénédiction. Être dans le plan de Dieu, c'est aussi être dans le temps de Dieu. Parfois, il faut attendre. Tous les feux sont rouges. Et puis d'un coup, c'est le moment. Tous les feux passent au vert. Un serviteur de Dieu va être poussé à aller de l'avant dans son projet, même sans argent, ou peu. Et un autre va être poussé à donner au premier. C'est ainsi que fonctionne la banque du ciel. Celui qui reçoit ne manque de rien, et celui qui donne ne se prive pas non plus. Comme dans la collecte pour les pauvres de Jérusalem. N'aie pas peur et fais confiance. Le fond du message, c'est que le véritable disciple doit faire confiance en tout dans le Seigneur, dans son plan, son temps, ses ressources et ses promesses. N'aie pas peur de faire confiance à Dieu. Si d'autres l'ont fait, alors ce n'est pas un objectif impossible à atteindre. C'est à ta portée. C'est à ta portée. Et je rajoute un dernier point, hors texte. Ensemble, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes environnés de témoins comme ceux que j'ai évoqués. Nous pouvons lire des témoignages édifiants pour nous encourager, comme celui de Georges Muller ou de Chris et de bien d'autres encore. Et nous-mêmes, nous encourageons ceux qui viennent après nous par notre exemple. Ensemble, nous prions dans nos petits groupes et nous voyons comment Dieu exauce nos prières. En Église, nous prions ensemble pour des projets plus ambitieux encore. Nous sommes encouragés de voir les réalisations de ceux que nous avons envoyés au loin et nous prions pour ceux qui se découragent. Cette vie de foi vécue collectivement est un cadeau que Dieu nous fait pour nous apprendre à lui faire confiance. C'est pourquoi continuons de nous encourager les uns les autres à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et nous verrons ensemble que toutes ces choses nous seront données en plus. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il augmente notre foi. Amen.